Bonjour, ravi de vous retrouver pour notre rencontre du dimanche avec ceux qui pensent le monde. Il s'agit bien ici de penser, pas de pansement, quoique il peut y avoir des remèdes spirituels à des plaies ou sur des plaies. Idée, le magazine qui interroge ceux qui pensent le monde, donc depuis 5 ans maintenant. Nous allons parler cette semaine de Jean Baudrillard, sociologue, philosophe, en marge de la sociologie, au seuil de la philosophie, selon notre invité Olivier Penaud-Lacassagne, qui publie « Back to Baudrillard » au CNRS Édition. Vous le constatez, encore un penseur à découvrir ou à redécouvrir, comme nous aimons le faire, pour vous et avec vous. Je vous rappelle que vous pouvez aussi retrouver cette émission, la podcaster, en allant sur notre site www.rfi.fr. Bonjour Olivier Penaud-Lacassagne.
Bonjour.
Merci d'être venu nous voir. Vous êtes maître de conférence à l'université Sorbonne Nouvelle. Je ne sais plus quel est le numéro. Ouais, de
Sorbonne
cette...
Nouvelle, Paris 3.
Paris 3, c'est ça. Vous êtes l'auteur d'autres livres que je prends plaisir à citer. Contre culture au CNRS Édition et également Les intellectuels et la guerre d'Algérie avec Catherine Brun en 2012. Le surréalisme en héritage, les avant-gardes après 1945, un livre publié en 2008. Et Antonin Artaud en 2007, c'est un essai dont vous êtes le spécialiste.
Oui, c'est exact. J'ai travaillé principalement pendant beaucoup d'années sur Antonin Artaud, puis ensuite sur les avant-gardes, ce qu'on appelle le néo-avant-gardisme aujourd'hui, les avant-gardes après 1945. Et travaillant sur les avant-gardes, j'ai croisé cet objet mal identifié que l'on appelle les contre-cultures. Et d'avant-garde en contre-culture, j'ai commencé à lire attentivement Baudrillard jusqu'à ce livre que vous avez sous les yeux.
Alors, tout ça d'une logique implacable.
Peut-être, oui. Nous allons le voir.
Le déroulement intellectuel est parfait. Alors, justement, Back to Baudrillard, pourquoi ce titre en anglais ?
Alors, pourquoi un titre en anglais ? Il y a bien sûr ici un clin d'œil à l'expérience américaine de Jean Baudrillard, sur laquelle nous reviendrons
bien
sans
sûr,
doute.
Bien sûr.
Mais également parce que il y a ici, comme un appel de la langue, Back to Baudrillard, il y a des sonorités qui sont séduisantes à l'oreille. Et puis, d'autre part, le titre français... qui aurait pu être en français
retour.
Retour à Baudrillard, retour sur Baudrillard me paraissait maladroit. L'anglais combine en réalité ce retour à et ce retour sur, et c'est pour ça que j'ai choisi finalement ce titre.
Alors j'ai voulu qu'on fasse cette émission juste après celle consacrée à Roland Barthes qu'on a pu écouter la semaine dernière. Ça vous semble pertinent comme choix ?
Ça me semble très pertinent. Je vous en remercie d'ailleurs de me faire cet honneur de succéder au très beau livre de Tiphaine Samoyeau. C'est tout à fait pertinent. Dans l'histoire des idées, c'est dans l'itinéraire, le parcours intellectuel de Baudrillard, c'est extrêmement pertinent dans la mesure où Roland Barthes est une référence majeure de Baudrillard à la fin des années 50 et tout au cours des années 60 et certainement 70.
Ouais, dont on va reparler de tout ça évidemment avec vous. On va découvrir parce que curieusement Jean Baudrillard est un petit peu, j'allais dire, passé à la trappe.
Jean Baudrillard est effectivement, l'expression passée à la trappe est peut-être excessive, un peu forte, mais néanmoins, Baudrillard n'est pas lu. Baudrillard manque de lecteurs. On a le mot de Baudrillard à la bouche, d'une certaine façon, le nom de Baudrillard à la bouche, mais en même temps, la lecture de ses nombreux livres reste une lecture superficielle. On se réfère en général au premier Baudrillard, et on abandonne ensuite cet autre Baudrillard que l'on appelle le dernier Baudrillard, mais effectivement, ce livre est justifié de la sorte, créer un espace, enfin un espace de débat, et accueillir au sein de ce livre des voix qui peuvent être des voix concordantes, mais également des voix contradictoires.
Alors il est vrai que votre livre est un livre très complet, très vivant, très agréable à lire, ce qui est quand même un paradoxe par rapport au style de Jean Baudrillard qui était fort critiqué. Certains ont parlé de vernis qui cachait le vide d'ailleurs, avec des entretiens avec des contributions de spécialistes sous des angles différents, comme c'est souvent le cas dans des livres collectifs. Alors on va commencer à découvrir ou à redécouvrir Jean Baudrillard grâce à vous, Olivier Penaud-Lacassagne. Et d'abord, cette première phrase, il n'est pas aisé de parler de Baudrillard. Pour quelle raison ?
Il n'est pas aisé de parler de Baudrillard.
Alors, je précise, Jean Baudrillard, 1929-2007. Hein.
Oui, voilà. 1929-2007, effectivement. Il n'est pas aisé de parler de Baudrillard, pour quelle raison ?
Parce qu'il est multiple.
Eh bien, premièrement, parce qu'il est effectivement multiple. Mais cela n'empêcherait peut-être pas de parler de Baudrillard. Cette multiplicité de l'œuvre n'est pas a priori dérangeante. Non, c'est le progressif et rapide positionnement intellectuel de Baudrillard qui fait que peu à peu, les lecteurs ou bien sont séduits par la perspective qu'il offre, qu'il ouvre, ou bien sont rebutés par cette perspective. Et Baudrillard, en particulier, dans le milieu universitaire, va voir se détourner des interlocuteurs majeurs à mesure qu'il va multiplier les propositions les plus paradoxales. Il y a, chez Baudrillard, un problème de réception de cette œuvre. C'est incontestable.
Pas aisé, ça veut dire qu'il est difficile de se mettre, d'essayer d'avoir un regard le plus objectif possible, c'est ça, sans tomber dans un camp ou dans l'autre. C'est contempteur ou c'est admirateur.
Ça pourrait être cela, effectivement. Baudrillard ne cherchait pas le consensus. Il ne recherchait pas d'ailleurs non plus le dissensus. Il tentait de se situer toujours ailleurs. Et très tôt, certaines intuitions de Baudrillard qui se sont vérifiées par la suite n'ont pas été comprises. Je l'écris dans l'introduction de ce livre. Baudrillard, en réalité, est un penseur à contre-temps. C'est-à-dire qu'au moment, par exemple, deuxième moitié des années 60, début des années 70, où se multiplient les discours de la contestation, Baudrillard, et c'est la conclusion de la société de consommation, les dernières lignes de la société de consommation, nous dit que consommation et critique de la consommation fonctionnent ensemble. Il s'agit donc, à partir de là, de rompre avec les postures de contestation, d'opposition, pour proposer autre chose. Et c'est cette autre proposition de Baudrillard qui déroutera.
Alors, son parcours, d'ailleurs, est très déroutant. On va en dire deux mots pour commencer aussi cette émission. Fils de gendarme, qui a préparé Normal Sup, mais qui a préféré devenir, ouvrier agricole.
C'est-à-dire qui a rompu, finalement, avec une promesse d'émancipation sociale que lui offrait la République pour autre chose. Et les années 50 et les années 60 de Baudrillard sont assez intéressantes parce que elles mettent en évidence une activité de traducteur qui est une activité dont on parle comme ça en passant.
Traducteur de l'allemand. Hein,
traducteur de l'allemand.
Il a eu un capacité d'allemand.
Il sera agrégé d'allemand.
Agrégé d'allemand. Ouais.
Donc Baudrillard a une connaissance fine de la langue allemande. Il l'enseignera et il traduira des textes Peter Weiss. Il traduira Marx, il traduira Hölderlin, par exemple, des poèmes qui ont été repris dans les cahiers de Lerne en 2004, des poèmes inédits, et ce sont de très très belles traductions, c'est-à-dire, et c'est ça qui est intéressant ici chez Baudrillard, il y a une attention à la langue, et on prête pas assez attention à la langue de Baudrillard, et il y a une attention à l'écriture également.
Alors, il y a une rencontre importante qui, dans son parcours intellectuel, s'entend, c'est la rencontre d'Henri Lefebvre, qui va marquer en réalité, sa carrière. Hein. Il faut rappeler qui était Henri Lefebvre, l'historien de la vie qu'on appelait la vie quotidienne, non, c'est ça ?
Oui, Henri Lefebvre est une figure très intéressante. C'est une figure
dont vous parlez d'ailleurs longuement dans le livre.
Oui. Il était nécessaire, je crois, d'en parler parce que autour de Lefebvre se dessine une configuration intellectuelle qui rassemble des personnes que nous connaissons bien finalement, Barthes. Les situationnistes, en particulier Guy Debord, mais aussi Jean Baudrillard et quelques autres. Lefebvre, c'est une figure provinciale de la pensée française et non parisienne. Donc, je veux dire par là qu'au XXe siècle, dans ce XXe siècle-là, cela compte. C'est-à-dire qu'il va être en marge, par exemple, de controverses importantes et il va alimenter un discours parallèle qui sera très pertinent dans les années 60.
Un discours marxiste, il faut le
dire. Un discours marxiste, il proposera, c'est un marxiste rénovateur, comme beaucoup d'intellectuels des années 50, et il va proposer avec un livre, sans doute son livre le plus connu, 1947, Critique de la vie quotidienne, la première tentative sociologique d'approche du quotidien. Et dans les années 50 avec les situationnistes, dans les années 60 avec Baudrillard, je pense également à Pérec, Georges Pérec et les choses, ouais. Eh bien, c'est là un thème qui connaîtra une attention importante.
Et ça va être pour lui, pour Jean Baudrillard, un point de départ extrêmement
Alors c'est
important.
C'est un point de départ très important. Lefebvre est nommé professeur de sociologie à Strasbourg, avant d'être nommé en 1964 à Nanterre, et Baudrillard sera rapidement en 66 l'assistant de Lefebvre, mais on trouvera également, comme au jury de thèse de Baudrillard, qu'il soutiendra en 1966 et qui donnera lieu au système des objets, qui paraîtra plus tard, un peu plus tard.
En 68,
eh bien, on trouve Lefebvre, bien sûr, mais également Roland Barthes et Pierre Bourdieu.
Mais c'est là qu'on retrouve Baudrillard à Nanterre, enseignant à
voilà,
Nanterre.
Voilà, on le retrouve à Nanterre et il fera l'essentiel de sa carrière à Nanterre.
Alors Nanterre, foyer quand même de la révolution avec plein de guillemets de 68.
Oui, Nanterre naissante, hein, université naissante, et également rapidement, 67-68, le foyer effectivement des futurs événements.
Alors vous parliez à l'instant de Guy Debord, il a exercé aussi une influence sur Baudrillard.
Debord, les situationnistes, exercent-ils une influence sur Baudrillard ? Baudrillard reconnaîtra, et jusque dans ses derniers textes, l'importance capitale du situationnisme, et en particulier de l'œuvre de Guy Debord. Il ne cessera de saluer le travail de Debord. Mais rapidement, au début des années 70, au moment de la Société de consommation, de son ouvrage qui paraît en 1970, Baudrillard commencera à prendre ses distances à l'égard du situationnisme, à l'égard de Debord. La position de Debord est une position frontale.
Alors, il faut rappeler ce qu'étaient ces situationnistes.
Alors, les situationnistes, donc, je ne vais pas en refaire ici l'histoire, mais disons que c'est une avant-garde révolutionnaire autour principalement de Guy Debord. Et c'est une avant-garde qui est influente et ultra-minoritaire en même temps. Nous avons relu les situationnistes il y a peu, en réalité. Nous lisions dans les années 60 et 70 d'autres avant-gardes, des avant-gardes formalistes, qui ont évincé les situationnistes. Alors, il y a là un courant de pensée très intéressant auquel appartient Baudrillard.
La Société du spectacle, hein, on la société, rappelle toujours.
Voilà, la Société du spectacle qui paraît en 1967. En même temps d'ailleurs que le système de la mode de Roland Barthes, et il se trouve que Baudrillard est plus intéressé à ce moment-là par le système de la mode de Roland Barthes que par la Société du spectacle, ou en tout cas, dans son œuvre, la présence de Debord est beaucoup plus discrète.
Ce qui veut dire, Olivier Penot-Lacassagne, qu'à partir de ce moment-là, Baudrillard devient, comment dire, le théoricien, l'analyste de la société contemporaine, on peut dire des choses comme ça ?
Il l'est au même titre que peut-être Lefebvre, peut-être encore Guy Debord et beaucoup d'autres, Marcuse et un certain nombre de théoriciens auxquels Baudrillard va se référer.
Alors, qu'est-ce qui fait son originalité à cette époque ?
Qu'est-ce qui fait son originalité ?
Fin des années 60, début des années 70.
Qu'est-ce qui fait son originalité, justement ? C'est de comprendre que la contestation fait partie du système. Dans le nouvel esprit du capitalisme, Boltanski et Schiapello, en 1999, constatent a posteriori cette impuissance de la critique à ce moment-là, la pensée critique des années 70-80, son impuissance à saisir le mouvement de cette époque. Or, il se trouve que Baudrillard en a une intuition précoce. Comme je le disais tout à l'heure, il pense à contre-temps. Alors que l'on pense des déterritorialisations, lui est ailleurs. Il signale qu'il faut inventer une autre pensée, une autre manière de penser notre époque. Et c'est cela qui rapidement...
C'est-à-dire qu'une pensée est débarrassée du marxisme ?
Non, pas débarrassée du marxisme. Une pensée... non pas débarrassé du marxisme, mais relisant attentivement le marxisme. Et l'un de ses ouvrages majeurs, c'est Le miroir de la production, en 1973. Dans cet ouvrage, Baudrillard revient sur le fantasme de la production. Et il dit une chose tout à fait essentielle, à savoir que il y a une complicité non aperçue entre le discours dominant et sa critique, autour du mythe, autour du fantasme de la production. Alors, productivité économique, certes, mais aussi production ou productivité textuelle, avec cette autre avant-garde que rassemblée autour de Solers et de Kristeva telle qu'elle, mais également productivité machinique de l'inconscient, avec Deleuze et Guattari, etc., etc.
C'est-à-dire que personne, pour lui, ne remet fondamentalement en cause le système.
Personne ne remet en cause, à ce moment-là, ce fantasme de la production. Et ça, c'est un élément très important pour Baudrillard. Et Baudrillard nous dit qu'il s'agit là, disons, du point faible, du point aveugle de la critique du système.
Ouais. Alors, il y a un mot-clé qui revient dans toute son œuvre, et vous le soulignez aussi, et d'autres contributeurs le font dans votre livre, le livre que vous avez dirigé, Olivier Penaud-Lacassagne, c'est le mot « objet », pour comprendre Baudrillard.
Oui, alors le mot objet, le système des objets, donc 1968, c'est un mot évidemment tout à fait important dans la première partie en tout cas de l'œuvre de Baudrillard. Alors, je dirais que ce premier ouvrage, c'est à la fois un commencement et en quelque sorte une synthèse d'une réflexion qui s'est amorcée à la fin des années 50, qui s'est nourrie de la rencontre de Lefebvre, de Barthes et de quelques autres. Et Baudrillard va ici, évidemment, porter un diagnostic sur la société de consommation naissante et à travers cette société, en particulier sur l'objet, les objets qui nous entourent.
C'est presque mythologie de Roland Barthes.
Oui, ça pourrait l'être, mais c'est aussi les choses de Pérec, qui date, je crois, de 1965. Vous voyez, nous sommes là, comme je le disais tout à l'heure, dans une certaine configuration, et il se trouve effectivement que l'objet, ces objets qui vont ensuite proliférer, nous dit Baudrillard, et là on est dans, c'est un autre Baudrillard, c'est le Baudrillard de l'hyper-réalité des années 1980, et bien cet objet donc, ces objets doivent être dignes de notre attention critique la plus rigoureuse.
Alors Baudrillard, sans entrer dans la complexité de sa pensée, nous sommes là pour élargir au contraire, essayer de faire comprendre au plus grand nombre sa pensée, Baudrillard c'est aussi le structuralisme en quelque sorte.
Alors, Baudrillard... Un peu, un tout petit peu. C'est-à-dire que, effectivement, Baudrillard se distingue de Lefebvre sur cette question-là. Puisque nous avons parlé de Lefebvre, il est important de signaler que Henri Lefebvre, Baudrillard n'est ni le disciple ni le continuateur de Lefebvre. Il a pour Lefebvre une grande affection. Lefebvre le reçoit à Navarinx, dans les Pyrénées. Il a pour lui une grande affection, mais néanmoins pour Baudrillard, des pensées plus aiguës se développent ailleurs. Et donc, c'est cet ailleurs qui intéresse Baudrillard. Ce que Baudrillard reproche, entre autres choses, à Lefebvre, c'est un certain dogmatisme et le refus, justement, de prendre en considération des pensées nouvelles. 1966, l'année structurale, ouais, dira-t-on, hein, c'est une année qui est éditorialement marquée par les ouvrages sur le structuralisme, mais... Dans le même temps, il y a un intérêt bien sûr de Baudrillard pour le structuralisme, mais il y a aussi sa participation en premier chef à un groupe et à une revue qui se nomme Utopie, autour d'Huberton K, de Baudrillard bien sûr, et puis de Lefebvre. Et plutôt que la durabilité de la structure, ce qui intéressera Utopie, qui est une association transdisciplinaire de sociologues, d'architectes et d'urbanistes, c'est l'éphémère. Hein, voyez. Et donc, par Utopie, eh bien, nous sommes dans une... C'est quelque chose qui a été peut-être mal vu. Nous sommes dans une critique de l'éternité de la structure.
Olivier Penaud-Lacassagne, nous allons marquer une pause et reparler de Jean Baudrillard après un point sur l'actualité de ces dernières heures. On se retrouve donc dans 3 minutes, comme d'habitude. À tout de suite. Jean Baudrillard, 1929-2007, fut, il n'y a donc pas si longtemps que cela, un intellectuel assez médiatique, critique avec les médias, un observateur de son époque, un intellectuel souvent contesté, certains de ses contempteurs, ses critiques, disant que derrière son vernis verbal, il y avait un vide de la pensée. Nous, nous portons un regard distancié sur lui, grâce à Olivier Penaud-Lacassagne, qui publie au CNRS édition Back to Baudrillard, au CNRS édition, donc vous avez commencé à évoquer le parcours intellectuel de Jean Baudrillard. On s'est attardé un petit peu sur les années 60. Il faut progresser un petit peu. Et il y a une période très importante dans la vie de Baudrillard, c'est la découverte, si j'ose dire, de l'Amérique.
Oui, alors, la découverte de l'Amérique.
La société primitive de l'avenir, écrivait-il.
Baudrillard fait un premier voyage aux États-Unis, un voyage d'études en 70. Il y séjournera ensuite en Californie, de temps à autre. Et l'Amérique, alors, c'est un sujet très intéressant. D'ailleurs, la vision baudrillardienne de l'Amérique n'a pas convaincu les Américains, loin s'en faut. En fait, Baudrillard, dans ce livre, va opposer la société policée des Européens et la société primitive ou supposée primitive des Américains. Cela vient-il d'une lassitude de l'Europe? On peut se poser la question, la réponse n'est pas là. Il y a dans ce livre chez Baudrillard, il le dira ensuite, une lassitude aussi d'une certaine Amérique. Et c'est l'écriture dont je parlais tout à l'heure qui vient relayer le voyage. Et c'est quelque chose d'important ici. Donc Baudrillard ne compare pas Europe et Amérique, mais observe. Il observe quoi ? Une autre scène, une scène primitive, un autre monde, une sorte, nous dit-il, d'altérité. Ça n'est donc pas la réalité économique ou politique des États-Unis qui l'intéresse, mais cette sorte de transfiguration de la banalité. Et Baudrillard fait à ce moment-là l'hypothèse d'un pays sans histoire. Et la représentation de ce pays sans histoire, c'est le désert. Voilà la véritable scène primitive. Et en même temps que Baudrillard traverse et savoure les déserts américains, se déploie dans ce livre le thème de l'extermination ou de la mort du sens. Ce qui fascine Baudrillard, c'est l'extrême dépouillement justement que propose le désert américain. Cet extrême dépouillement mène vers une indifférence du monde et une insignifiance du sujet dans ce monde de signes purs qu'est le désert. Et je pourrais citer ici Baudrillard, voilà ce qu'il dit, « Là, je pouvais m'évanouir dans l'indifférence du monde, s'évanouir dans l'indifférence du monde. » Voilà l'Amérique de Baudrillard. Il va de soi que cette Amérique-là est loin de nos représentations de l'Amérique.
Certes. Olivier Penaud-Lacassagne, pourquoi Michel Maffesoli, que l'on connaît bien dans cette émission, puisqu'il a été notre invité, dit à propos de la pensée de Baudrillard qu'elle est une pensée quasiment apocalyptique?
Alors,
il parle des positions apocalyptiques de Baudrillard.
Oui. Alors, on a fait évidemment de Baudrillard un écrivain de l'apocalypse, mais au sens le plus obscur, le plus sombre du terme. Or,
parce que l'apocalypse, c'est aussi la révélation.
Voilà. C'est le sens dans lequel, c'est le sens que prend ici le mot d'apocalypse dans la bouche ou sous la plume de Michel Maffesoli, à savoir de révélation. Ce que nous révèle en réalité Baudrillard. C'est ça qui intéresse Maffesoli. Et il y a une certaine proximité, mais il y a des différences majeures entre Baudrillard et Maffesoli, mais il y a une certaine proximité. Il y a cet intérêt pour le monde, pour la société présente.
Parce que Michel Maffesoli, c'est la réalité, j'allais dire, toute bête qui l'intéresse.
Oui.
On le connaît pour ses réflexions sur la tribu, le clan, etc. et d'autres choses. Baudrillard, c'était pas tout à fait quand même...
Baudrillard, ça n'est pas ça. Ouais. Ça n'est pas ça. Mais il y a un point de départ commun qui se trouve dans les années 60, dans cette configuration intellectuelle dont je parlais tout à l'heure, avec les situationnistes et quelques autres. Il y a une différence majeure entre Maffesoli et Baudrillard, effectivement, c'est que Baudrillard, nous dit Maffesoli, n'accepte pas le monde tel qu'il est. Or, Maffesoli regarde ce monde tel qu'il est. Ce qui les rapproche, c'est que ils sont du côté de la constatation, de l'observation. Il n'y a pas de jugement. Il n'y a pas de jugement chez Baudrillard. Il n'y a pas de jugement chez Maffesoli. Et ce qui les rapproche également, c'est que il y a un goût pour, je dirais, la pente naturelle d'une écriture, lorsque c'est une belle écriture, et la créativité, l'inventivité de l'écriture. C'est quelque chose qui est au cœur de Baudrillard. Baudrillard n'est pas, et Nathalie Anige dans ce livre lui fait le reproche, ne propose pas un discours sociologique sérieux, soumis à l'objectivité de la science. Baudrillard est un penseur hypothétique. L'hypothèse chez Baudrillard n'est pas expérimentale, elle ne peut pas être vérifiée, elle est spéculative. Et poussons la spéculation le plus loin possible, poussons les paradoxes à leurs limites. Telle est justement la pensée apocalyptique de Baudrillard, qui est une pensée du dévoilement à l'extrême.
Avec différentes époques donc, parce qu'il a eu des curiosités multiples. Avec toujours le même mécanisme de pensée, c'est-à-dire soumettre des hypothèses.
Soumettre des hypothèses, très rapidement. Hein. Ouais. Que la théorie, nous dit-il, que la théorie soit une fiction. Hein. Une fiction qui sera sans doute beaucoup plus juste que ces recherches du vrai et du faux que nous propose le savoir.
Oui. Est-ce qu'il y a un exemple qu'on peut donner sur ces hypothèses soumises? Par exemple, il s'est beaucoup intéressé, Jean Baudrillard, à la communication, à la société de communication.
Oui, il s'est intéressé évidemment à la société de communication,
aux technologies de communication,
aux médias, et il a des propositions tout à fait intéressantes que l'on peut méditer aujourd'hui, lorsqu'il nous dit que le média est anti-médiateur, que le média ne propose pas de communication, mais à l'inverse, interdit la communication, c'est-à-dire que c'est une parole
confisquée,
c'est une parole sans réponse, et ce sont des analyses qui sont tout à fait pertinentes. Le meilleur exemple que nous avons donné tout à l'heure, c'est l'exemple de l'Amérique. Faire de l'Amérique un pays sans histoire, rassembler l'Amérique en ses déserts, en cette quintessence du désert, c'est évidemment une hypothèse, une fiction, et peu d'Américains le suivent sur ce plan.
Il y a le Baudrillard qui analyse sa société contemporaine. On va sauter un peu les étapes. Après les attentats de 2001, il s'est intéressé au terrorisme. On va y revenir dans un instant. Mais lors de la guerre du Golfe, la première guerre du Golfe contre l'Irak, enfin après la guerre Iran-Irak, le voilà qui écrit un livre qui s'intitule « La guerre du Golfe n'a pas eu lieu ».
Pourquoi ? Oui. Alors, c'est d'abord un article de presse, effectivement, qui fera scandale. Et une fois de plus, nous sommes dans les paradoxes de Baudrillard qu'il s'agit d'élucider. Alors, la guerre du Golfe n'a pas eu lieu. La guerre du Golfe, nous dit-il, est une guerre médiatique. C'est une guerre qui est diluée dans les gloses et dans les commentaires.
Et il avait parfaitement raison. La première guerre du Golfe, personne ne l'a vue. On a vu que des images de jeux vidéo. On s'en souvient. Enfin, les plus anciens s'en souviennent.
Voilà. Et donc, il est assez proche de Derrida. Derrida, lui, parle à ce moment, un peu plus tard, d'actu-virtualité. Actu-virtualité. C'est-à-dire que les prétendus faits, eh bien, sont le produit d'un criblage ou d'un filtrage interprétatif contrôlé par le marché ou par les instances étatiques. Et pour Baudrillard, de ce fait, et c'est là qu'on ne le suit plus, si vous voulez, à partir de ce diagnostic qui n'est pas erroné, eh bien, il ne s'agit pas d'essayer de retrouver la réalité ou la vérité de la guerre du Golfe derrière ces mystifications que vous rappeliez, mais d'être en réalité plus virtuel que les événements eux-mêmes. Là où Derrida, par exemple, demande un travail vigilant de contre-interprétation des sources d'information, Baudrillard suit une autre pente. Soyons plus virtuels que les événements eux-mêmes. C'est-à-dire, poussons cette logique-là du système à ses extrémités.
D'ailleurs, je ne sais plus si c'est vous qui l'écrivez ou si c'est un des contributeurs dans ce livre très riche. Baudrillard dit, parce que une maison d'édition lui propose d'aller suivre la guerre du Golfe sur le terrain, comme on dit aujourd'hui, lui répond, moi je suis dans le virtuel, je ne suis pas dans le réel, je ne sais rien faire dans le réel.
Voilà.
Un éditeur lui a quand même proposé d'aller suivre la guerre du Golfe en 91 sur place.
Bien sûr. Mais c'est justement la parfaite illustration de la démarche intellectuelle de Baudrillard. Le réel, ce réel-là, ne nourrit aucunement la pensée de Baudrillard. Et les hypothèses que formule Baudrillard sont plus fortes que ce réel-là.
Ouais. Alors il y a aussi son hypothèse, ses idées sur l'histoire, qui mérite aussi qu'on s'y arrête, en disant que toute fin est dans son début, en quelque sorte, si j'ose raccourcir à ce point sa pensée complexe.
Oui, alors, là encore, il faudrait effectivement peut-être proposer quelques termes que Baudrillard nous donne. Mm-hmm. C'est-à-dire que nous passons de la consommation à la simulation. La consommation, c'est les années 70, fin des années 60, début des années 70. Très rapidement, chez Baudrillard, nous passons d'une société de la consommation à une société de la simulation. C'est-à-dire que la chose et le signe se confondent. Le signe et son référent se perdent. Notre société des années 80, c'est celle de la progressive saturation. Cette société devient, c'est ce qu'il appellera l'hyper-réalité, une société de la prolifération, prolifération des objets, prolifération des images, prolifération des informations. Nous sommes dans une société obèse. Que fait de l'histoire cette société obèse? Voilà la question. Et puis, de cette société saturée, eh bien, nous glissons, et c'est le tournant des années 2000, vers ce que Baudrillard appelle la réalité intégrale, c'est-à-dire où eh bien, le monde bascule du côté de l'opérationnel total. Un monde qui irait technologiquement, techniquement, au bout de ses possibilités.
Ouais. Un monde fini.
Un monde, d'une certaine façon, fini, mais qui n'en finit pas de finir.
Et c'est le Baudrillard qui analyse aussi l'homo economicus.
Voilà. Alors, il n'y a plus donc de ce fait, il n'y a plus dans ce monde de transcendance. C'est un monde immanent, c'est un monde... Et la question de l'histoire est importante ici, justement, du rapport historique du sujet à ce monde. Eh bien, c'est un monde qu'on ne peut plus idéaliser, c'est un monde qu'on ne peut plus dépasser. Il est là, et il est immédiatement réalisé. Tout est technologiquement possible. On vit aujourd'hui, nous dit Baudrillard, c'était en 2004, dans un univers intégralement calculable, manipulable, disponible. Et c'est cette réalité-là qui prolifère. C'est cette réalité-là qui, d'une certaine façon, se substitue à l'histoire, au concept même d'histoire.
Alors, il y a aussi le Baudrillard qui s'est intéressé, après 2001, donc, au terrorisme.
Qui s'est intéressé, effectivement, au terrorisme. L'attentat du 11 septembre 2001 motive chez lui une réflexion, là encore, qui, publiée dans Le Monde, lui vaudra l'opprobre de la plupart des intellectuels américains. Alors, que nous dit-il? Eh bien, il nous dit que le 11 septembre constitue un événement absolu, absolu dans le vocabulaire de Baudrillard. Absolu et paradoxal.
Son livre s'intitule « Towers, hypothèse sur le terrorisme », c'est ça, la violence du mondial.
Oui, et puis l'année suivante, en 2002, il publiera « Power Inferno ». Alors, qu'est-ce que Baudrillard nous dit ici? Eh bien, que cet événement absolu est paradoxal. Il appelle et il suscite une consternation terrifiée, une déploration douloureuse abîmale, et dans le même temps, une jubilation inavouable. Il n'y a pas là, nous dit-il, de choc de civilisation, mais un rapport terreur contre terreur. Terrorisme, d'une certaine façon, terrorisme du système contre ce terrorisme affolant, délirant que nous connaissons. Contre le virus de la mondialisation, dont l'islamisme est une des formes, eh bien, il y a ces manifestations de violence délirante. Alors, dans Power Inferno, il poursuit cette réflexion en nous disant que le terrorisme porte au paroxysme la violence imposée par les incertitudes du capitalisme financier. Et c'est cette posture-là, cette analyse-là, qui suscitera un grand malaise.
Pour quelle raison?
Eh bien, parce que, là encore, Baudrillard évince la possibilité d'une déploration, même si il est profondément affecté par ces événements, pour émettre des propositions qui sont presque inaudibles à ce moment-là. À savoir que le système mondial est un système qu'il qualifie de terroriste. Et c'est en réalité l'usage du même terme pour dire la terreur qu'impose ce système sur le monde et sur les populations mondiales et les violences aveugles de quelques individus. On a ici chez Baudrillard sous sa plume le même mot, terrorisme contre terrorisme.
Et c'est ça qui n'a pas plu aux États-Unis, j'imagine.
C'est ça qui est difficile à admettre, évidemment. Admettre que nous avons ici une violence qui serait une violence équivalente, dans les termes en tout cas.
Alors Jean Baudrillard, c'est aussi Olivier Penola-Cassagne, l'homme qui critique en quelque sorte ce qu'on peut appeler l'impérialisme occidental contre les cultures en général.
Oui, alors c'est une critique, et en même temps, s'il y a un point nostalgique chez Baudrillard, lui qui récuse la nostalgie, c'est-à-dire finalement tout retour en arrière, la possibilité de récupérer des valeurs perdues ou des objets perdus, il y a là une fascination chez Baudrillard pour l'altérité. Le désert représente cette altérité, oui. Certaines cultures primitives peuvent représenter cette altérité. Le monde tel qu'il est, représente cette altérité. La fascination de Baudrillard pour une certaine photographie, justement, est une célébration du monde tel qu'il est, non pas de la réalité intégrale, le monde que nous avons produit, que le système produit, mais ce monde, cet objet simple qui disparaît en même temps que disparaît le sujet qui va à sa rencontre.
Ceux qui pensent le monde.
Alors, il y a aussi le Jean Baudrillard critique de l'art contemporain. Il écrit « Toute la duplicité de l'art contemporain est de revendiquer la nullité, l'insignifiant alors qu'il est déjà nul ».
Voilà, je crois que vous avez trouvé la citation.
Dans votre livre très riche que je conseille.
Alors, effectivement.
Plus sévère que ça, c'est pas possible. Hein.
Plus sévère que ça, c'est pas possible, mais qu'est-ce que veut dire au juste Baudrillard ? Eh bien, c'est, je rappelle les circonstances, c'est un livre qui va mettre le feu aux poudres. C'est un livre qui met le feu aux poudres, mais c'est un livre qui est mal interprété. Certaines personnes y ont vu là une critique radicale de l'art contemporain. Et il y a, bien sûr, chez Baudrillard, une critique de l'art contemporain. Mais Baudrillard n'accuse pas tout l'art contemporain. Il dénonce l'abondante médiocrité de ceux qui le pratiquent, de la plupart de ceux qui le pratiquent. On est là, à nouveau, face à un paradoxe. C'est-à-dire que n'est pas nul qui veut, n'est pas insignifiant qui veut, nous dit Baudrillard. Et c'est ça, évidemment, qui n'a pas été compris. Le livre de Philippe d'Agen et les propos...
qui est dans le livre, effectivement.
Les propos de Philippe d'Agen sont très intéressants dans ce livre. Le livre de Philippe d'Agen, La haine de l'art, qui paraît en 1997, paraît dans ce contexte. Et Jean Baudrillard, dans son livre, y est placé au rang des procureurs du bon goût offusqué, des traditionalistes, des chantres de l'antimodernisme. Et c'est cette formule, en réalité, la formule sommaire de Baudrillard, l'art contemporain est nul, qui n'a pas été bien perçu. La nullité, nous dit Baudrillard, c'est une qualité secrète, qui ne peut pas être revendiquée par n'importe qui. Et on rejoint ici des considérations sur le désert. L'insignifiance, nous dit Baudrillard, la vraie, c'est celle qui défie le sens. C'est l'art de la disparition du sens. Et c'est une qualité exceptionnelle qu'il reconnaît chez quelques rares artistes, et en particulier Warhol. Warhol, dont il fait le portrait suivant artiste agnostique, artiste machinique, artiste insignifiant, c'est-à-dire qui nous débarrasse de la tyrannie du sens. Donc, il y a chez Baudrillard à la fois une critique d'une production qu'il juge lamentable et en même temps la recherche au sein de l'art contemporain de véritables artistes qui seraient à la fois nuls et insignifiants, au sens très particulier qu'il accorde à ces deux mots.
Alors, Olivier Penola-Cassagne, on a quand même l'impression qu'à la fin de sa vie, dans les dernières années, Baudrillard est un peu seul. D'ailleurs, vous notez, de façon générale, que la solitude de sa pensée doit être soulignée.
Oui, c'est exact. On trouve cette chose assez paradoxale chez Baudrillard, c'est que Baudrillard jouit d'une notoriété internationale incontestable.
Beaucoup traduit, par exemple.
Il est beaucoup traduit, il est reçu évidemment aux États-Unis.
Alors, il écrit beaucoup d'articles de journaux, on y a fait référence. D'ailleurs, l'art, ses propos sur l'art, c'était d'abord dans Libération, il me semble.
Oui, et repris ensuite.
Donc, beaucoup traduit, écrivant beaucoup dans les journaux, donc consacré. Mais finalement, vous parlez de solitude.
Oui, il est consacré sur bien des malentendus, et peu importe en réalité. Il est au moins lu, même s'il est mal lu, et son destin national est tout à fait autre, c'est-à-dire que Baudrillard connaît un certain lectorat, mais il n'est pas pris au sérieux par l'université, par exemple.
Il a toujours été en marge, hein.
Il connaît, oui. Il a été universitaire, il a soutenu l'habilitation en 1986, l'autre par lui-même. Néanmoins, Baudrillard reste un infréquentable, d'une certaine façon. Pourquoi ? Eh bien, parce que faire des propositions de Baudrillard ? Que faire de ses hypothèses et de ses paradoxes ?
Nombreuses sur beaucoup de sujets.
Voilà. Baudrillard, en fait, donne à penser. Et c'est ce que ce livre voudrait rappeler. Il a donné à penser hier et avant-hier, et j'espère qu'il donne et donnera à penser aujourd'hui et demain. Ce livre engage au débat. Il accueille des intervenants qui développent des propos, je le disais en introduction de notre conversation, qui développent ou bien des positions antagonistes, fermement antagonistes, ou bien amorcent un dialogue, ou bien poursuivent ce dialogue.
Alors qu'est-ce qui reste aujourd'hui, Olivier Penot-Lacassagne, quelques années après sa disparition, 2007, je le rappelle, de Baudrillard, hein, une façon de regarder le monde ?
Une certaine façon de regarder le monde, et de manière assez surprenante d'ailleurs, lorsque j'ai l'occasion ici et là de parler de Baudrillard, ou lorsque l'on parle de Baudrillard, on me parle de sa préscience. Baudrillard déjà, et l'entretien avec Bernard Stiegler est tout à fait intéressant, Bernard Stiegler s'interroge sur ce refoulement de Baudrillard. Pourquoi Baudrillard a-t-il été ainsi refoulé ? Que s'est-il passé ? Eh bien, pour que nous ne lisions pas Baudrillard, et pour que lui-même d'ailleurs abandonne Baudrillard après les premiers livres. Que reste-t-il de Baudrillard aujourd'hui ? Il reste justement, cette œuvre à lire enfin. Non pas pour se faire le chantre ou le disciple de Baudrillard, mais pour débattre non plus avec lui, mais avec les propositions qui sont les siennes. Que nous dit-il de l'Amérique ? Que nous dit-il du terrorisme ? Que nous dit-il de l'art ? Que nous dit-il de cette société opérationnelle ? Aujourd'hui, on ne parle plus de société opérationnelle, mais il s'agit désormais non plus d'être opérationnel, mais d'optimiser la participation de l'individu à cette société. Le vocabulaire change, mais la chose est là encore. Qu'est-ce que Baudrillard nous dit de notre aujourd'hui ? C'est ça qui est important.
Alors, il nous dit que le système est en quelque sorte bloqué, parce que tant sur le plan du capitalisme que sur le plan de la société de communication, on sent que quelque chose doit changer.
Sans doute, mais ça n'est pas la perspective de Baudrillard. Et c'est ce que beaucoup lui reprochent. En réalité, c'est ce qu'un Stiegler, par exemple, lui reproche, sans lui faire le reproche. C'est ce qu'il observe.
Le reproche de pas aller jusqu'au bout.
Le reproche justement d'aller au bout de ses hypothèses. Et il est vrai que chez Baudrillard, ses hypothèses nous décollent d'un certain réel. Mais ce réel-là, justement, n'intéresse pas Baudrillard. Baudrillard pousse l'analyse qu'il fait des phénomènes qui lui sont contemporains aux limites. Et c'est là qu'on abandonne Baudrillard.
Parce qu'il est trop difficile ?
Parce qu'il est trop difficile, parce qu'il, par l'intuition, par l'hypothèse, par l'écriture, simplement, il donne une perspective à des phénomènes, perspective que nous n'apercevons pas encore, que nous n'apercevons peut-être jamais, mais qui peuvent se justifier parfois.
C'est une analyse intellectuelle à l'état pur, il n'y a pas de proposition concrète.
Voilà, c'est une spéculation.
Une spéculation.
Voilà. Et que faire d'une pensée spéculative ?
Dans un monde qui est terriblement concret, hein, qui a besoin de concret.
Dans un monde
utilitariste.
Dans un monde qui spécule, mais autrement.
Et qu'est-ce qui vous a, vous, personnellement, le plus intéressé dans Baudrillard ? Vous qui êtes spécialiste d'Artaud, je le rappelle, aussi de la contre-culture.
Oui, alors, ce qui m'intéresse chez Baudrillard, justement, c'est au moment où fleurissent les contre-cultures dans l'espace occidental, donc des positionnements contestataires, c'est l'impossibilité, nous dit-il, précocement, de la contestation, dans la mesure où le système, et c'est ce que Chapiello et Boltanski analyseront en réalité 25 ans plus tard, c'est la voracité d'un système qui admet la norme et l'antinorme, qui se nourrit de la contestation, qui l'absorbe, qui la neutralise, qui l'annule ou qui l'élimine d'une manière ou d'une autre, qui spécule sur la contestation. Et donc très tôt, Baudrillard le dit cela. Et ça, je trouve que c'est un positionnement très intéressant. Comment, aujourd'hui, s'opposer ? Voilà ce que je retire de Baudrillard. Comment, aujourd'hui, s'opposer ? Et certes, Baudrillard récuse la possibilité d'une opposition frontale. Cette position demeure. La frontalité de l'opposition, de la contestation, demeure. Mais Baudrillard nous prévient des faiblesses d'un tel positionnement, qui, à mon avis, reste nécessaire. Et nous invite donc à inventer d'autres voies, d'autres possibilités. Lui, la sienne, sera l'écriture. L'écriture, dit-il, n'obéit pas. L'écriture n'obéit jamais.
Merci Olivier Penaud-Lacassagne. Je recommande vivement votre livre intitulé « Back to Baudrillard », un livre que vous avez donc dirigé avec de multiples contributions, livre publié au CNRS Édition. Merci.
Je vous remercie.
Idée réalisée évidemment par Vanessa Rovensky, un magazine à retrouver, à podcaster sur le site de la radio, www.rfi.fr. Continuez à nous écrire à l'adresse suivante.
Idée au pluriel @rfi.fr.
Je vous retrouve samedi prochain pour une semaine d'actualité, dimanche pour de nouvelles idées, dans un instant un nouveau journal sur RFI.